Chapitre 8. Sir Henrik Liesring traversa le salon du Majestic en jetant à peine un coup d'œil sur les personnes qui s'y trouvaient. Il avait l'esprit préoccupé. Pourtant, comme c'est souvent le cas, un détail se grava dans son subconscient et attendit patiemment son heure. Tandis qu'il montait, Sir Henry se demanda ce qui avait pu motiver la soudaine urgence du message de son ami. Conway Jefferson n'était pas homme à envoyer des injonctions aussi pressantes. Un événement hors du commun devait s'être produit. Jefferson ne perdit pas de temps à tourner autour du pot. « Merci d'être venu. Edwards, un verre pour Sir Henry. Asseyez-vous, mon vieux. Vous n'êtes pas au courant, je suppose. Rien encore dans les journaux. » Sir Henry secoua la tête, sa curiosité piquée.
Que se passe-t-il donc?
Un meurtre. Voilà ce qui se passe. Je suis concerné. Et nos amis Bantry aussi.
Arthur et Dolly Bantry? Fit Cleasering incrédule.
Oui. Le corps a été retrouvé chez eux, voyez-vous. En termes aussi clairs que concis, Conway lui exposa les faits. Sir Henry l'écouta sans l'interrompre. Les deux hommes avaient l'habitude d'aller tout de suite au cœur des choses. Sir Henry, un des anciens hauts responsables de la police métropolitaine, était réputé pour la rapidité de son esprit de synthèse.
« Voilà une affaire peu banale », commenta-t-il lorsque son compagnon eut terminé. « Comment les Bantry ont-ils pu se trouver mêlés à ça, à votre avis ?»«
C'est bien ce qui me tracasse. Voyez-vous, Henry, j'ai l'impression que le fait que je les connaisse pourrait ne pas être étranger à l'affaire. » C'est même le seul lien que je puisse voir. Car ni sa femme, ni lui, je crois, n'avaient rencontré cette fille auparavant. Il l'affirme. Il n'y a aucune raison d'en douter. Qu'ils la connaissent aurait été autrement surprenant. Alors, ne se pourrait-il pas que cette fille ait été attirée dans un guet-apens et son cadavre délibérément abandonné dans la maison d'amis à moi?
Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, dit Cleasering.
Mais pas impossible, insista Jefferson.
Peu probable, en tout cas. Qu'attendez-vous de moi?
Je suis invalide, fit amèrement Conway. J'essaie de me cacher la réalité pour ne pas lui faire face, mais dans des cas comme celui-ci, elle s'impose à moi. Je ne peux pas me déplacer comme je le voudrais pour poser des questions, mener ma petite enquête. Je suis coincé ici, obligé de dire humblement merci pour les miettes d'informations que la police consent à me distiller au compte-gouttes. Au fait, connaissez-vous Melchett, le chef de la police du Redfordshire?
Oui, je l'ai rencontré.
Un détail se précisa dans le cerveau de Sir Henry. Un visage et une silhouette enregistrés inconsciemment tandis qu'il traversait le salon. Une personne âgée, au buste droit, des traits qu'il reconnaissait. Une image qu'il associait à la dernière fois qu'il avait vu Melchett.
« Vous voudriez me faire jouer au détective amateur ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas mon truc, ça. »«
Justement, » dit Jefferson, « vous n'êtes pas un amateur. »«
Je ne suis plus un professionnel non plus. » « Je suis à la retraite, désormais, ce qui simplifie les choses. »« Vous voulez dire que si j'étais encore à Scotland Yard, je ne pourrais pas m'en mêler ?»« C'est on ne peut plus vrai. »«
Tandis que là, votre expérience vous donne qualité pour vous intéresser à cette affaire, et toute aide que vous pourrez apporter sera hautement appréciée. »«
Ce n'est pas contraire à l'éthique professionnelle, » répondit lentement Cleasering. « Mais que voulez-vous au juste, Conway ? Découvrir qui a tué cette fille ?
Absolument.
Vous n'avez aucune idée vous-même ?
Pas la moindre.
Vous ne me croirez sans doute pas, dit Sir Henry en pesant ses mots. Mais vous avez en bas, assise au salon en ce moment précis, une experte pour résoudre ce genre d'énigme. » Une personne meilleure que moi dans cet exercice et qui, selon toute vraisemblance, pourrait bien avoir des tuyaux intéressants sur le voisinage.
Comment ça?
En bas, dans le salon, à côté du troisième pilier sur la gauche, est assise une vieille demoiselle au visage doux et placide, mais dont l'esprit a exploré dans leurs moindres recoins les profondeurs de la malignité humaine. Elle s'appelle Miss Marple. Elle habite le village de Sainte-Marie-Mide à 2 kilomètres de Gossington. C'est une amie des Bantry et, dès qu'il s'agit de démasquer un criminel, elle est championne toute catégorie. Les sourcils épais de Jefferson se froncèrent. « Vous plaisantez ?» articula-t-il. « Absolument pas !»« Vous venez de parler de Melchett. » La dernière fois que je l'ai vue, il y avait eu un drame au village. Une fille qui s'était prétendument jetée à l'eau, la police ne croyait pas, avec raison, qu'il s'agissait d'un suicide, mais d'un meurtre. Il pensait tenir le coupable. Or, voilà que s'approche de moi, de son pas sautillant, toute paniquée, la vieille Miss Marple. Elle craint, me dit-elle, qu'on ne fasse pendre un innocent. Ne possède aucune preuve, mais connaît l'assassin. Me tend un morceau de papier avec un nom écrit dessus et... Sacre bleu, Jefferson. Elle avait raison. Les sourcils de Conway se rapprochèrent de plus belle. Il émit un grognement incrédule. L'intuition féminine, peut-être, lâcha-t-il avec scepticisme. Non, elle n'appelle pas ça comme ça. Des connaissances spéciales. Voilà ce qu'elle prétend avoir. Ce qui signifie, eh bien, voyez-vous, Jefferson, nous aussi, nous y avons recours dans la police. Quand il y a un cambriolage, nous savons en général très bien qui a fait le coup, dans le lot habituel des malfaiteurs, je veux dire. Nous savons qui opère, comment. Miss Marple établit des parallèles intéressants, quoique parfois tout bêtes, avec la vie du village. Alors que voulez-vous qu'elle dise ? Reprit Jefferson, toujours aussi incrédule, sur une jeune fille issue du milieu artistique et qui n'a probablement jamais de sa vie mis les pieds dans un village. « Je crois, » persista Sir Henry Clisring, « qu'elle pourrait avoir quelques petites idées. » Miss Marple rougit de plaisir lorsqu'elle vit Sir Henry venir droit vers elle. « Ah, Sir Henry, quelle chance de vous rencontrer ici !»«
C'est un plaisir !» répondit-il, galant.
« Trop aimable !» murmura Miss Marple en rougissant de plus belle. « Vous résidez à l'hôtel ?»«
Oui, en fait, nous sommes deux. »«
Deux ?»«
Madame Bantry est là également. »
Elle leva sur lui un regard perçant.
« Vous êtes au courant de ce qui s'est passé ?»«
Oui, je vois que oui. C'est affreux, n'est-ce pas ?»«
Dolly Bantry ? Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Et son mari aussi ?»«
Oh non, ils ont bien évidemment tous deux eu des réactions très différentes. Quand il y a un problème, le colonel Bantry s'enferme dans son cabinet de travail ou part visiter l'une de ses fermes, le pauvre. » Comme la tortue, voyez-vous, qui rentre la tête dans sa carapace en espérant qu'on ne la verra pas. Avec Dolly, vous vous en doutez, c'est une toute autre paire de manches.
Elle, fit Sir Henry, qui connaissait bien sa vieille amie, ça l'amuserait presque, hein?
Eh bien, oui, la pauvre chérie.
Et elle vous a amené ici pour que vous lui trouviez la solution miracle.
Dolly a pensé qu'un changement de décor lui ferait du bien, répondit posément Miss Marple, et elle ne voulait pas partir seule.
Une lueur de malice passa dans ses yeux.
Mais, bien sûr, ce que vous dites est tout à fait exact. C'est même embarrassant pour moi. Je ne lui suis d'aucune utilité.
Pas d'idée ? Pas de parallèle avec les gens du village?
J'en sais encore si peu sur cette affaire. Je crois que je peux remédier à cela.
Je vais vous appeler en consultation, Miss Marple. »
Il lui fit un bref exposé des faits. Miss Marple l'écouta avec un vif intérêt.
« Pauvre monsieur Jefferson, commenta-t-elle, quelle triste histoire. C'est terrible ces accidents. Rester ainsi seul et infirme à vie, cela paraît encore plus cruel que de mourir avec les siens.
Absolument. Et tous ses amis l'admirent pour le courage avec lequel il a repris le dessus, surmonté sa douleur, son chagrin et son infirmité.
Oui, c'est admirable.
La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce soudain débordement d'affection pour cette fille. Elle avait peut-être des qualités remarquables, après tout.
J'en doute fort, dit Miss Marple, impavide.
Vous ne croyez pas ?
Je ne crois pas que ses qualités soient entrées en ligne de compte.
Conway n'est pas un vieux fou, vous savez, lança Sir Henry.
Oh non !
Se récria Miss Marple, dont le visage s'empourpra.
Je ne voulais rien insinuer de tel. Ce que j'essayais de dire, fort mal, je m'en rends compte, c'est qu'il cherchait seulement une adolescente saine de corps et d'esprit pour prendre la place de sa fille défunte. Que cette Ruby a vu là sa chance et qu'elle a joué le tout pour le tout. Vous allez me trouver bien cynique, je sais, mais j'ai vu tant d'affaires de ce genre. La jeune bonne a tout faire de Monsieur Arbuttle, par exemple. Une gamine tout ce qu'il y a de plus quelconque, mais sans histoire, bien élevée.
La sœur de ce monsieur part s'occuper d'un parent malade, et à son retour, elle trouve la fille pleine d'arrogance, qui trône au salon, qui parle, qui rit, qui a jeté aux orties et sa coiffe et son tablier. Mademoiselle Arbuttle lui en fait sèchement la remarque. La gamine répond avec insolence et « Ne voilà-t-il pas que le vieux monsieur Arbuttle déclare à sa sœur abasourdie qu'elle régentait la maison depuis assez longtemps comme ça et qu'il avait pris d'autres dispositions ?»
Scandale au village, vous vous en doutez. N'empêche que la pauvre mademoiselle Arbuttle a bel et bien dû céder la place pour s'en aller vivoter dans un garni d'Eastbourne. Les gens ont jasé, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de relations intimes. Le vieil homme trouvait simplement beaucoup plus agréable d'entendre une jeune fille toujours gaie lui répéter combien il était intelligent et spirituel que sa sœur ne cessait de lui faire remarquer ses défauts. Aussi compétente fut-elle pour gérer le budget familial.
Après un moment de silence, Miss Marple reprit.
Et puis, il y a eu Monsieur Badger, le pharmacien. Lui, c'est la jeune personne qui tenait le rayon parfumerie de son magasin qu'il mettait sur un piédestal. Il décréta un beau jour à sa femme qu'il devait la considérer comme leur propre fille et l'installer chez eux. Madame Badger ne voyait pas ça du tout d'un bon œil.
Si au moins, intervint Sir Henry, Conway avait choisi quelqu'un du même milieu que lui, la fille d'un ami, par exemple.
Miss Marple l'arrêta.
Oh, mais il n'en aurait pas tiré la même satisfaction. C'est un peu comme le roi Cophetua, qui détestait les femmes jusqu'à ce qu'il rencontre une petite mendiante toute vêtue de gris dont il tomba amoureux. Pour le vieil homme solitaire et là, peut-être délaissé par sa famille, il est beaucoup plus réconfortant de prendre sous son aile quelqu'un qu'il subjuguera de sa munificence. J'emploie de grands mots, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il se sent important, c'est un grand seigneur. La bénéficiaire en sera éblouie et cela, bien sûr, est gratifiant pour lui.
Elle marqua une pause puis reprit.
Ainsi, Monsieur Badger offrit à sa vendeuse des cadeaux tout à fait somptueux. Un bracelet de diamants, un radiophono de grande valeur. La majeure partie de ses économies y est passée. Cependant, Madame Badger, bien plus fine mouche que la pauvre Mademoiselle Arbuttle, le mariage, ça aide, prit la peine de mener sa petite enquête. Quand le pharmacien s'aperçut que la fille avait une liaison avec un personnage très peu recommandable lié au milieu des courses et qu'elle avait déjà mis le bracelet en gage pour lui donner l'argent, il fut complètement dégoûté et l'affaire en resta là. Le Noël d'après, il offrait un solitaire à sa femme. Son regard malicieux croisa celui de Sir Henry, qui se demandait si cette histoire était une allusion directe.
« Vous voulez dire que s'il y avait eu un jeune homme dans la vie de Rubikin, l'attitude de mon ami envers elle aurait pu changer ?»«
C'est probable, voyez-vous. D'ici un an ou deux, il aurait peut-être cherché à lui trouver un mari. Encore que ce ne soit pas sûr du tout, les hommes sont tellement égoïstes. Mais je suis persuadée que si Rubikin avait connu un garçon, elle aurait bien pris garde que ça ne se sache pas.
Et le garçon en question aurait pu se fâcher.
Je pense que c'est l'explication la plus plausible. J'ai été frappée que sa cousine, la jeune femme qui était à Gossington ce matin, ait, sans la moindre équivoque, montré de la colère contre la morte. Ce que vous m'avez dit explique pourquoi. Nul doute que l'affaire lui aurait valu des avantages substantiels.
Un être calculateur et sans scrupules, en fait.
Vous la jugez peut-être un peu sévèrement. La pauvre fille a été dressée à vivre à la dure. Et il est certain qu'elle ne va pas s'apitoyer si des nantis, tels que vous avez décrit Monsieur Gaskell et Madame Jefferson, voient leur passer sous le nez une grosse somme d'argent supplémentaire sur laquelle ils n'ont véritablement aucun droit moral. Pour moi, Mademoiselle Turner est une jeune femme déterminée, ambitieuse, au caractère bien trempé et qui mord dans la vie à pleines dents. Un peu, ajouta Miss Marple, comme Jessie Golden, la fille du boulanger.
Que lui est-il arrivé à elle ? Demanda Sir Henry.
Elle a suivi une formation de gouvernante et a épousé le fils de la maison qui était rentré des Indes en permission. Elle a fait une excellente épouse, à ce que je crois.
Voyez-vous une raison, fit Sir Henry, pour s'extraire de ces fascinantes considérations connexes à ce que mon ami Conway Jefferson ait subitement été atteint de ce complexe de Cophetois, si l'on peut l'appeler ainsi.
Peut-être bien.
De quel ordre ?
Miss Marple répondit après une légère hésitation. À mon avis, simple hypothèse évidemment, il serait possible que son gendre et sa belle-fille aient voulu se remarier.
Il ne se serait pas opposé à ça, voyons.
Opposé, non, sûrement pas. Mais il faut essayer de voir les choses de son point de vue. Il a subi un choc terrible, et eux aussi. Les trois personnes que ce deuil a touchées vivent sous le même toit, et le lien qui les unit est la perte qu'elles ont subie. Mais le temps, avec un grand T, comme disait ma chère mère, guérit bien des maux. Monsieur Gaskell et Madame Jefferson sont jeunes. Il se peut qu'à leur insu, les chaînes qui les emprisonnaient dans ce douloureux passé aient commencé à leur peser, et que le vieux Monsieur Jefferson ait alors ressenti un soudain manque d'affection sans en connaître la cause. C'est courant, les messieurs se sentent vite délaissés. Pour Monsieur Arbuttle, c'était Mademoiselle Arbuttle qui avait eu le tort de s'éloigner de lui. Pour Monsieur Badger, sa femme, qui avait celui de trop s'occuper de spiritisme et de déserter la maison pour assister à des séances.
« Je dois dire, regretta Sir Henry, que je ne prise guère votre façon de tous nous réduire à un dénominateur commun. »
Miss Marple hocha tristement la tête. « La nature humaine est pratiquement partout la même, Sir Henry. » Ce dernier prit une expression de dédain.
« Monsieur Arbuttle, Monsieur Badger, et ce pauvre Conway Jefferson. J'ai horreur des considérations personnelles. Mais existe-t-il un équivalent à mon humble personne dans le village ?
Oh si, bien sûr. Il y a Briggs.
Qui est-ce?
C'était le chef jardinier du vieux manoir. Le meilleur qu'ils aient jamais eu. Il savait toujours exactement quand ses ouvriers se relâchaient dans le travail. À croire qu'il avait des yeux derrière la tête. Il se débrouillait avec seulement 3 hommes et un jeune garçon, et l'endroit était mieux tenu qu'auparavant avec 6. Ses poids de senteur ont remporté plusieurs prix. Il est à la retraite à présent.
Comme moi, observa Sir Henry.
Mais il continue à faire de menus travaux pour les gens qu'il aime bien.
Ah, encore comme moi. C'est ce que je fais en ce moment. Un menu travail pour dépanner un vieil ami.
Deux vieux amis.
Deux ? S'étonna Sir Henry, intrigué.
Vous parliez de Monsieur Jefferson, je suppose. Mais je ne pensais pas à lui, je pensais au colonel et à Madame Buntry.
Oui, oui, bien sûr. C'est donc pour ça que vous avez gratifié Dolly Buntry de ce pauvre chéri au début de notre conversation.
Absolument. Elle ne s'en rend pas encore bien compte. Moi, je sais parce que j'ai davantage d'expérience. Voyez-vous, Sir Henry, il me semble que ce pourrait bien être le genre de crime qui n'est jamais élucidé. Comme ceux de la malle de Brighton. Seulement, si tel était le cas, ce serait catastrophique pour les Buntry. Le colonel, comme la plupart des militaires à la retraite, est d'une sensibilité extrême. Il est très attentif à l'opinion publique. Il n'y prêtera pas attention au début, mais cela ne tardera pas à le miner. Une discourtoisie par-ci, une vexation par-là, des invitations déclinées, des excuses avancées. Petit à petit, la vérité va se faire jour en lui. Il va rentrer dans sa coquille, sombrer dans la neurasthénie.
Laissez-moi m'assurer que je vous comprends bien, Miss Marple. Vous voulez dire que parce que le cadavre a été découvert dans sa maison, les gens vont s'imaginer que le colonel est impliqué dans le meurtre?
Bien sûr. Et c'est à n'en pas douter ce qui se dit déjà maintenant. On va jaser de plus en plus, tourner le dos aux Buntry, les éviter. D'où la nécessité de découvrir la vérité et la raison de ma venue ici avec Dolly. Une accusation en face, c'est une chose. Un soldat sait aisément y répondre. Il s'indigne et a la possibilité de se défendre. Tandis que là, ses chuchotements vont le briser. Vont les briser tous les deux. Vous comprenez donc, Sir Henry, pourquoi nous devons démasquer le coupable.
Avez-vous une idée de ce qui a pu amener ce cadavre dans sa maison? Il doit bien y avoir une explication, un lien quelque part.
Oh, certainement.
La fille a été vue à l'hôtel pour la dernière fois vers 22h40. À minuit, d'après le rapport du médecin, elle était morte. Gossington se trouve à une petite trentaine de kilomètres. Sur les 25 premiers, jusqu'à ce qu'on quitte la nationale, la route n'est pas mauvaise. Une bonne voiture peut couvrir cette distance en moins d'une demi-heure. Une moyenne de 60 n'a rien d'extraordinaire. Mais pourquoi la tuer ici et transporter son corps à Gossington? Ou l'emmener à Gossington pour l'étrangler là-bas? Je ne comprends pas.
Vous ne pouvez pas, puisque ce n'est pas ce qui s'est passé.
Vous voulez dire qu'elle aurait été étranglée par un individu qui l'aurait emmenée en voiture et qui aurait décidé de fourrer le cadavre dans la première maison venue?
Pas du tout. Je crois qu'un plan avait été soigneusement élaboré et qu'il a mal tourné. Sir Henry ouvrit de grands yeux.
Ah ? Pourquoi ?
Il se passe parfois des choses bien curieuses, non ? Répondit Miss Marple comme pour s'excuser. Si je vous disais que ce plan a échoué parce que les êtres humains sont beaucoup plus vulnérables et sensibles qu'on ne le croit généralement. Cela paraîtrait stupide, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourtant ce que je pense, et... Elle s'interrompit. Ah, voilà Madame Buntry.